France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Le passé, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vis demain, demain matin, risque de mort compris. Confié Léo Ferret dans le premier épisode de l'émission Profil, que lui consacrait en janvier 1971 Émile Noël. Pourtant, c'est bien sur son enfance que revient l'auteur de Monsieur Mon Passé, dans le roman autobiographique qu'il vient alors de faire paraître. Les années qui précèdent et celles qui suivront cette expérience littéraire qui restera sans suite sont un tournant dans l'œuvre de Ferret. Il n'a jamais cherché à être à la mode. En véritable artiste, Léo Ferret a senti, sans même se l'expliquer, que ce qui était possible hier ne l'est plus, que ce qui était chantable avant ne l'est peut-être plus. Sa chanson « C'est extra » a élargi son public à des jeunes gens qui, depuis 68, se reconnaissent dans cette personnalité passionnée, cet anarchiste déclaré. Mais Ferret n'a jamais couru derrière la jeunesse. C'est elle qui l'a suivi. Au fil du temps, Léo Ferret s'éloignera du cadre devenu trop étroit de la chanson pour revenir à ses plus profondes passions, la musique et la poésie. Écoutons le deuxième volet de cette série de quatre dans lequel Léo Ferret s'entretient avec Émile Noël.
Vous pensez tout le temps à la mort. C'est une réflexion, ou si c'est pareil, c'est une réflexion récente ou une réflexion que vous avez emportée avec vous depuis de nombreuses années. Et est-ce que, quel type de réflexion c'est ?
Difficile, c'est une espèce de présence qu'on sent. Il y a quelques années, ça me faisait peur. Je pensais à la mort tout le temps et j'avais peur. Maintenant, je pense à la mort tout le temps et je dois dire que j'ai moins peur. La peur qui reste quand on pense à la mort, c'est le grand mystère.
Oui. Hein ?
Bon, c'est tout. Et je crois qu'il faut penser à la mort, c'est une chose utile.
Mais alors ce grand mystère, ça veut dire qu'un doute subsiste ?
Non, pas du tout. Ah, sur l'après ? Oh non, moi je pense que c'est vraiment, ça fait partie de la vie, et que vous vous rappelez pas, vous, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, et vous étiez déjà vivant. Hein ?
Oui, c'est vrai.
Donc c'est une inconscience. Bon, ça fait partie des choses. J'ai l'impression que moi je voudrais me retrouver arbre, dans une forêt, un truc, une feuille, humus, quoi. Et avoir peut-être le sentiment d'être ça, c'est ça au fond, cette espèce de sinistre anthropomorphisme, n'est-ce pas, qui ne nous quitte pas. Je voudrais être arbre, mais savoir que je suis arbre, et puis regarder les gens passer en disant, tu sais pas que je suis arbre, et moi je suis arbre, et je t'emmerde. Mmh. Voilà. Donc être un homme dans l'arbre, quoi, c'est ça, en définitive.
La lampe d'Aladin.
Oui, et puis je sais pas, je crois que les arbres, s'ils ne pensent pas, ils souffrent en tout cas. Un arbre, ça gueule quand on le coupe. C'est pour ça que je dis, quand on scie un arbre, j'ai mal à la jambe. Vous savez, il y a un livre qui est extraordinaire, qui a peur, qui me fait pleurer. J'habite à l'Italie, et sur ma table de nuit, j'ai un livre que j'ouvre n'importe quelle page. Comme on ouvre un livre. Exactement, c'est devenu, pour quelque temps, le livre chevet. J'ouvre ce livre à n'importe quelle page, et je pleure. C'est un livre totalement désespéré. C'est un livre qui n'est pas inventé, puisque c'est une série d'entretiens enregistrés qu'un monsieur qui s'appelle Gavi a eu avec des tas d'ouvriers et des ouvrières qu'il a connus à travers la France.
Oui, ça s'appelle Les Ouvriers. D'ailleurs.
Ça s'appelle Les Ouvriers, oui. C'est un livre fantastique. Eh bien, aucun espoir. On voit comment ces gens, nous reprenons l'expression, assument leurs conditions, mais ils sont là, ils sont pliés. C'est terrible. Il faut lire ce livre. Laissez-le, ça, ne coupez jamais ça, parce que c'est important. Il faut dire des choses. Il faut pas lire des romans, il faut lire ça. Il faut lire ce livre beaucoup plus important que mon livre à moi, par exemple. Voilà.
Puisqu'on y est, vous l'avez écrit pourquoi ? C'est finalement votre premier bouquin. Je sais que vous avez une espèce de petit violon dingue, c'est que vous aimez faire de l'imprimerie. Vous avez eu l'occasion d'imprimer un certain nombre de choses.
Oui,
là,
oui.
Ce bouquin, vous l'avez écrit. On reviendra à l'imprimer tout à l'heure, on a le temps. Ce bouquin, c'est votre premier bouquin. Vous avez écrit d'autres trucs. Vous avez écrit vous avez écrit un oratorio. Vous avez écrit un ballet en dehors des chansons. Vous avez aussi écrit un opéra qui, que je sache, a été refusé par l'ORTF.
Non, c'est pas ça. L'opéra avait été envoyé à un concours en Italie. Enfin, bref, quoi.
Enfin, bon, le bouquin.
C'était pas bon. Le bouquin, nous reparlerons de la chanson du mal-aimé, si vous voulez, aussi. Mais RTF, il y a des choses vraies là-dessus. Et le bouquin, c'est un jour, je me suis mis comme ça, en 56, à écrire des choses. Je ne sais pas pourquoi. Sur ma vie de collège. Et puis, ça s'est fait comme ça, en 2-3 ans, à temps perdu, j'ai écrit ça. Et puis, je l'ai laissé comme ça, dormir. Et puis, j'ai écrit la fin de ce livre cette année parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait que j'ai fait éditer ce livre comme ça. Mais c'est un concours de circonstances. C'est un livre intime. Je dis que c'est un roman. C'est évidemment un roman puisque c'est des tas de choses inventées à travers ma vie de petit enfant à moi.
Oui.
Mais c'est l'histoire d'un petit enfant.
Le personnage, c'est vous.
Le personnage, c'est moi, oui et non, parce que c'est pas totalement moi quand même. Vous comprenez, c'est quand on écrit, l'écriture, c'est une tricherie.
Mais alors, ce Benoît, je veux dire que j'enlève pas une contradiction, je vous cherche absolument pas des poux dans la tête en ce moment, mais c'est vrai que au travers de quantité de choses qu'on voit de vous, on se rend bien compte que vous n'êtes pas du tout le monsieur qui se retourne fréquemment. Et tout de même, ce roman est la présence de l'enfance dans votre âge adulte.
Oui.
C'est quand même ça.
Et oui, ça c'est évident. Puis vous savez, je suis un enfant encore, moi. C'est ça. Hélas.
Pourquoi
et heureusement. Hélas, parce que ça me fait des tas d'histoires. Et puis, dans ma vie sociale, dans les rapports que j'ai avec les autres. Et puis, heureusement, parce que ça me laisse une naïveté qui me rend fort, en définitive. C'est terrible de ne plus être naïf, je pense.
Mais c'est quand même assez, assez intéressant, assez curieux de voir que c'est après, je réfléchis, 20 ou 25 ans de carrière que ce bouquin apparaît.
Oui. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ma carrière.
Oui. Et est-ce que c'est un bouquin isolé ou est-ce que c'est finalement peut-être le début d'un autre mode d'expression que vous risquez d'adopter dans les années qui viennent ?
Moi, je vais écrire, je crois, parce que un de ces jours, je vais arrêter d'aller montrer sur les planches. Quand même.
Monsieur, mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme un rancard qui me rend bizarre. Comme les gens pressés qui veulent pas causer pour pas faire d'histoire, on changera de trottoir. J'ai dans la tête un je ne sais plus de 1925, un je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin dans le bric-à-brac où se fabriquent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler ce je ne sais plus qui vous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui n'est pas passé malgré le banjo qui se gratte le dos et puis le guignol où ma parole on venait paumer ces belles années. Monsieur, mon passé faudrait bien passer. J'ai comme une envie d'aller faire ma vie. Guignol ou banjo, je te ferai bien la peau. Je suis peut-être qu'une cigale, mais je t'emmène au bal.
Vous m'avez dit, au fond, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aurais envie de faire, ce serait de vivre seul, absolument seul maintenant. Bon, peut-être qu'effectivement, l'homme qui ne monte plus sur les planches et qui écrit peut envisager cette vie solitaire. Seul avec un chimpanzé. On va revenir aux animaux aussi.
Oui. Mais ça, c'est mon désir, mais je pense que je ne pourrais pas jamais le faire, parce que... Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne dis pas que j'ai besoin, mon malheur à moi, c'est les femmes, vous comprenez ? Voilà. Je dis ça malheur, parce qu'il est difficile de dire qu'une femme, c'est un objet extraordinaire. Et des fois, c'est pas un objet. Puis souvent, c'est un objet qu'on montre, qui vous mène par le bout du nez. J'en ai marre d'être un chien avec le collier.
Et pour vous, c'est un problème qui vous semble insoluble.
C'est insoluble.
C'est à la fois oui. le désir profond d'en être libéré et l'impossibilité de s'en libérer.
Oui, c'est insoluble. Je pense pas, parce que je dis ça, je le dis sincèrement, je le pense passionnément, et puis je ne peux pas être seul dans un lit. Et pourtant, je sais que quand on dort, on dort, je dis dans la chanson Pépé, on couche toujours avec des morts. C'est vrai. Il n'y a rien de plus abominable que quand on se réveille et qu'on voit la femme du moment ou de la vie, quand on pense que la vie, ça peut durer 3 ans, c'est déjà long, n'est-ce pas ? Et qu'elle est morte, quoi. Morte. On couche avec des morts. Et alors, on a l'habitude de dire la chaleur de l'autre, l'amitié, la fraternité, tout ça, à deux, ça n'existe pas. L'horreur de l'amour, ce qui est abominable, c'est le couple. Je disais que j'ai été amené à ça petit à petit, et puis sans vouloir faire de mots, vous savez. Les mots les plus courts, on dit que ce sont des quand ils parlent par coup de poing ou par pirouette ou par aphorisme, c'est pas vrai. Je dis que le mariage, d'ailleurs, c'est une idée reçue, n'est-ce pas? Le mariage, c'est l'institution officielle de l'amour, et ça tue l'amour, c'est bien connu, d'ailleurs, c'est facile à comprendre. Mais je crois que le pire que ça, c'est que ce qui tue l'amour, c'est, ce qui est horrible, c'est le couple. Le couple, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec des gens, mais il faut les quitter, puis les revoir, tout ça, avec la faiblesse de l'homme qui dit... et puis le côté un peu fleur bleue, je suis absent, je t'écris pas. On est toujours des enfants. Mais à partir du moment où on s'installe avec les souliers, les pantoufles, quand on lit le même journal 2 fois de suite dans le lit, c'est pas avec l'autre à côté qui lit aussi son journal. C'était terrible.
Ben à la limite, ce qui tue l'amour, c'est l'amour, alors.
Non, l'amour, c'est autre chose, l'amour. C'est autre chose que ce qu'on croit. L'amour, c'est le don, c'est donner, quoi. Je crois que c'est ça. C'est pas recevoir. Jamais. L'amour, c'est le don. Voilà.
On s'aimera pour un quignon de soleil qui s'étire pareil au feu d'un feu de bois. On s'aimera pour des feuilles mourantes sous l'œil indifférent de mon Seigneur froid, de mon Seigneur froid. On s'aimera cet automne quand ça fume que du blond, quand sonne à la Sorbonne l'heure de la leçon, quand les oiseaux frileux se prennent par la taille et qu'il fait encore bleu dans le ciel en bataille, dans le ciel en bataille. On s'aimera pour un manteau pelé par les ciseaux gelés du tailleur des frimas. On s'aimera pour la boule de gui que l'on neuf à minuit a roulé sous nos pas, a roulé sous nos pas. On s'aimera cet hiver quand la terre est peignée, quand sais-tu le concert des oiseaux envolés, quand le ciel est si bas qu'on le croit au rez-de-chaussée et que le temps des lilas n'est pas prêt d'être chanté.
Il est difficile de parler d'argent. Moi, quand je parle d'argent, il faudrait que je mette 20 ans en arrière quand je gagnais au jour le jour ma vie. Et encore, j'avais de la chance car j'avais ma voix. Vous comprenez ? J'étais un artiste, je ne suis pas comme un écrivain ou comme un peintre qui attend de vendre ces choses. Moi, je me vendais tous les jours, le chômage compris. Enfin, j'en parlais l'autre jour à un écrivain, je lui disais, toi c'était beaucoup plus difficile que pour moi, car nous étions dans la merde ensemble, mais moi, c'était une misère d'abord objective, n'est-ce pas, puisqu'on se dit, bon, on va sentir un jour ou l'autre, mais avec ma voix, tous les soirs, je gagnais 10 francs, quoi. Bon, eh bien, je vivais. C'est-à-dire que lui, il attendait, il écrivait, mais il vivait pas, vous comprenez. Donc, en définitive, j'ai eu pas mal de chance, vous comprenez. Puis un beau jour, l'audience s'est faite ce qu'elle, petit à petit ce qu'elle est devenue maintenant. Et évidemment, quand je suis dans un théâtre, les gens viennent, donc j'ai une part de ce billet qu'ils achètent pour venir d'abord me voir, me toucher avec les yeux. C'est pour ça qu'on est des gens de prostituer un peu dans une vitrine, n'est-ce pas? Puis après ils écoutent ou ils écoutent pas, enfin bref. Mais je parle quand même. Moi, ce qui me démolit, c'est que on ne peut rien faire, on ne pourra jamais changer rien à rien. Les gens ne gagneront jamais leur vie, c'est tout. Voilà. Non mais moi, ce qui peut me gêner, c'est que j'ai beau jeu moi de parler parce que je n'ai pas de problème grave en ce qui concerne ma façon de vivre dans la société, car évidemment je vis dans la société. Bon, il y a donc quelque chose, une situation ambiguë. Je n'ai, en définitive, ai-je le droit de parler, étant donné que moi je suis un type privilégié, mais privilégié par la vie, par ma naissance, par le fait que je suis ce que je suis et que je fabrique des choses avec ma tête. Vous comprenez? Et alors, c'est dans ce sens que je suis aussi seul, mais ai-je le droit de parler et de me plaindre pour les autres? Je n'ai pas le droit peut-être, mais j'ai le devoir de le faire, étant donné que j'ai une voix, j'ai une façon de m'exprimer qui peut, aider les gens un peu des fois. Et je sais que j'en aide comme ça, mais comment? Intellectuellement, quoi, sentimentalement.
Oui, ça veut dire que là, de toute façon, vous répondez en partie à la question précédente, c'est-à-dire que vous pensez que quand même, bien que le phénomène existentiel soit fondamental, il y a quand même des choses qu'il faut dire ou qu'il faut faire.
Ah oui, c'est le phénomène existentiel, c'est une chose qui me regarde moi, mais en dehors de ça, je suis dans la cité, moi, c'est sûr, évidemment. Il n'y a pas de problème, vous savez, pour moi.
Oui, vous êtes dans la cité, vous avez envie de vivre seul.
Oui.
C'est un conflit, ça.
Ben, c'est le malentendu. Voilà. Et quand je suis seul, quelque part, je veux plus sortir. Je deviens timide et j'ai plus envie, j'ai honte. Vous savez, quand il y a longtemps que je ne monte plus sur une scène, quand je dis longtemps, ça peut être au maximum un mois et demi, je m'y remets difficilement. J'aime pas me montrer. Puis après, le métier revient. Alors, voilà. Le métier, ça favorise bien les choses.
Est-ce que les applaudissements ou l'assentiment du public, c'est quelque chose qui vous encourage ou est-ce que vous pouvez vous en passer très bien?
Là, c'est difficile de répondre. Vous comprenez que quand je fais ce métier, que les gens applaudissent, je les sens contents et j'aurai une mauvaise grâce. Vous dire, moi, l'assentiment, je m'en fous, c'est pas vrai. Hein? Et puis, nous faisons un métier particulier. C'est-à-dire, moi, je suis 2 heures sur une scène, mais toutes les 3 minutes, les gens applaudissent. Ce qui se passe jamais au théâtre. Ou alors, quand on applaudit une réplique dans une pièce, je sais pas moi, de boulevard, ou bien une pièce politisée, quoi. Où les gens sont contents de se délivrer de quelque chose. Ils pensent comme ça, mais nous, on pense comme lui, alors on applaudit. Mais, donc, c'est particulier. Et les applaudissements font partie de vraiment intégrante du spectacle. Puisqu'on applaudit, moi j'ai 25 ou 28 séquences, chansons, et chaque fois on applaudit. Ou on applaudit moins, on applaudit plus, ça dépend évidemment. Quoi. Et je ne peux pas dire que je peux me passer des applaudissements. Vous savez, si demain je devais faire un tour de chant du début à la fin, et j'imaginais un jour ça, et pouvoir même le provoquer, en faisant des enchaînements, vous savez. Sans applaudissements, ça me changerait, forcément, parce que, évidemment, il se passerait quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, si des gens n'applaudissent pas après une chanson, ça veut dire qu'il vaut mieux que je m'en aille, c'est sûr. Si on ne sont pas contents, ils s'emmerdent.
La constitution d'un récital, ça suppose effectivement un certain matériel, ça suppose une certaine intuition, mais aussi un certain métier. Je suppose que vous n'êtes pas arrivé au récital comme ça. Et non. De but en blanc. Est-ce que c'est aussi pour vous une espèce de tracas ou est-ce que ça vient tout seul? Enfin, est-ce que ça paraît évident, cette organisation?
C'était un tracas, mais maintenant ça l'est beaucoup moins. Ben, d'abord, je ne fais pas ça tout seul, j'en parle à mes copains. Et puis, il y a une habitude aussi. Il y a aussi des trucs, des ficelles, oh, petites. C'est-à-dire qu'on essaie de placer des chansons qui sont différentes les unes des autres, forcément, pour essayer de monter, et de monter pas trop à la première partie pour que ça monte encore plus à la seconde, forcément, quoi.
Des violons dans ses yeux verts, comme des violons sur l'Atlantique, qui chanteraient la fantastique. Vous que l'on voit debout sur les chevaux du temps, vous qui buvez le coup à leurs naseaux tout blancs, qui passiez vos nuits à bercer les marins, vous qui donniez la vie aux roses des moulins. Comme un cheval traînant la vague, quand la mer met toutes ses bagues, le vent qui gêne à l'horizon a des sabots dans sa chanson. Comme un cheval traînant la vague, quand la mer met toutes ses bagues. Vous qui êtes en croix sur la rose des vents, vous qui tendez les bras au larron du printemps, vous dont les fauves gris font pâte de velours, qui faites la pluie, comment ferait l'amour.
Vous êtes monté à Paris tout de suite après la libération.
En 1946, j'étais au Bœuf sur le Toit.
Comment ça s'est passé, là, le début?
Oh, c'était terrible, parce que vous comprenez que moi, j'étais une espèce de type, une espèce d'oiseau de malheur, à mon piano. Et puis je chantais en m'accompagnant, donc je me servais de ma gueule, qui est expressive, mais souvent trop. Et puis je faisais des grimaces. Alors, c'est Nosferatu le vampire. C'est un mot qui a été repris l'autre jour par un type à la télévision, je ne sais plus qui. Qui a dit... Ah ben, un critique de télévision. J'étais au Havre il n'y a pas longtemps, et on est venu me filmer pendant 4 minutes. Et juste après, il passait le film Nosferatu le vampire. Alors il parle du critique, il dit, nous avons vu Ferré qui ressemble à... on aurait dit Nosferatu le vampire. Et puis après, nous avons vu Nosferatu le vampire qui ressemblait à Ferré. Voilà. Eh bien, c'est peut-être un peu vrai aussi. Mais quand je m'accompagnais, j'avais mes mêmes prises, alors je croyais, ça c'était venu comme ça, inconsciemment, je jouais trop de ma gueule, vous comprenez. Et j'arrivais à faire des grimaces abominables, sûrement. Il a fallu que... Ah, vous vous rendez compte, c'était au début, ça. Alors, quand je faisais du monde dans des cabarets, c'était bourré, il y avait 40 personnes.
Oui, c'est l'époque du quadlibet, c'est voilà. Ça, quadlibet, l'arlequin, etc.
Voilà, ouais, c'est ça. Quadlibet, l'arlequin, l'échelle de Jacob, mm-hmm. Milord Larsouille,
Vous avez travaillé, vous avez collaboré à plusieurs chansons avec Francis Claude qui animait.
On a fait trois chansons ensemble, deux ou trois. La vie d'artiste et puis l'île Saint-Louis.
Et après ces cabarets.
Après ces cabarets, eh bien, il y a encore eu des cabarets longtemps, vous comprenez.
Mais à l'époque, quand même, c'était. Attendez, si je me rappelle, à l'époque, c'était La Chambre, c'était des chansons qui.
Écoutez, alors j'ai eu deux chansons qui ont marqué le début de mes tours de chant, sont La Chambre et Le Scaphandrier, qui ont été des chansons dont moi j'ai pas écrit les paroles.
Baer,
qui était un type que je connais, très gentil, que j'ai connu sur la côte.
C'était de toute façon des chansons qui étaient plutôt des chansons qui étaient des chansons douces et qui n'annonçaient pas le ferret qu'allait apparaître très très peu de temps.
Ah oui, quand même, après. La Chambre, c'est des chansons qui me ressemblent quand même.
Ouais.
Et oui.
Mais ça
s'est trouvé comme ça. La chambre, c'est une chanson merveilleuse.
Oui, bien sûr. L'aphorisme, la chanson par aphorisme, enfin, la chanson par,
ah oui.
par ellipse, oui. C'est quand même très caractéristique de Ferré Parolier.
Oui, mais alors ça, c'est venu tout à fait par hasard au début. Quand j'ai commencé à faire des chansons, je faisais de la musique. Alors, je travaillais avec une parolière, comme ça, amateur, qui n'avait pas beaucoup de talent. Et moi, je ne m'en rendais pas compte, parce que quand on fait de la musique, on fait de la musique à n'importe quoi. On pense qu'à la musique. Puis un beau jour, je me suis rendu compte que c'était pas possible et j'ai fait des paroles comme ça. Moi. Vous
mais
comprenez
c'était avant de monter sur, enfin avant ah, oui, de avant, monter oui. sur Paris, c'est
oui,
ça
oui, avant. Oui. On l'a fait très peu, mais avant. Et puis ce sont des chansons que je pourrais pas chanter maintenant. C'est bizarre ça, parce que je peux plus chanter ces chansons. Dernièrement, il m'est arrivé. Mes copains me disent tu devrais prendre des anciennes chansons, par exemple. Tu devrais rechanter L'Homme, par exemple. J'ai chanté L'Homme un soir. Je n'ai pas chanté deux. Je me suis ramassé. Je ne sais pas pourquoi.
Veste à carreaux, bien smoking, portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûté par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne. C'est L'Homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan, et le reste, mon Dieu, pour l'Amazone. C'est L'Homme. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide. Le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle. C'est L'Homme. Le héros qui part le matin, l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone. Le chien qu'on prend comme un ami quand il ne reste plus personne. C'est L'Homme. Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour affistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge. C'est L'Homme. Le va-t'en guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette. C'est L'Homme. L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est L'Homme.
Le deuxième volet de l'émission Profil, dans laquelle Émile Noël recevait Léo Ferré, a été diffusé pour la première fois le 11 janvier 1971, une réalisation de Bernard Saxel.